Eh bien, bonsoir mes petits morvitons cérébrales de l'Amazonie Sud. J'espère que vous allez bien en cette magnifique journée du début de l'été au mois de mars. C'est absolument magnifique. Fait chaud de temps camisole, rest in peace Kobe. Et je suis présent aujourd'hui pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour l'UFC 260 Miocic contre Ngannou 2. M'en allais dire une grosse carte, mais pour vrai, c'est pas une grosse carte, c'est littéralement une carte de deux combats. Et puis, ben, c'est ça qui arrive malheureusement. Vous le savez, probablement, on a perdu ce qui était probablement le combat le plus intéressant ou le deuxième plus intéressant sur la carte, dépendamment comment vous voyez ça. En Alexander Volkanovski face à Brian Ortega. Ça fait très, très mal parce que c'est une carte de deux title fights et d'autres combats. Là, on se retrouve avec un title fight et d'autres combats. Et puis, je suis là aujourd'hui pour vous présenter mes analyses et positions complètes pour cet événement-là. Ce qu'on va faire de différent, cependant, c'est qu'actuellement, je commence avec le main event, puis on descend, puis on parle de tous les combats. Mais sur cette carte-là, le premier combat de la soirée, c'est le combat de Marc-André Barrio. Puis je le sais que la majorité des gens qui écoutent ça ici veulent m'entendre parler du main event, oui, mais veulent surtout m'entendre parler de Marc-André Barrio puis de son combat face à Abu Azaitor. Donc, pour faire changement, on va commencer avec le premier combat de la soirée. Ensuite, on va run through le restant de la carte puis on va terminer avec le main event qui est un combat très intéressant, mais duquel je pense pas que je vais avoir à parler pendant vraiment 20 minutes. Je pense qu'on est assez conscient du genre de match-up qu'on a entre les mains dans le main event. Donc, commençons à l'instant avec le premier combat de la soirée. Ça va avoir lieu à 19h30. C'est en direct sur RDS, ils viennent d'annoncer qu'ils commençaient le broadcast 30 minutes plus tôt pour nous montrer ce combat-là de Marc-André Barrio. Ça devrait être sur UFC Fight Pass aussi, évidemment. Je ne sais pas si TSN vont le diffuser. Ça me surprendrait bien gros vu que c'est un Québécois et TSN, c'est plus based en Ontario. Donc, ça me surprendrait que TSN commence le broadcast 30 minutes plus tôt pour nous montrer ça. Mais ça va être 30 minutes plus tôt à RDS, donc 19h30, sinon UFC Fight Pass. Et puis, ben n'importe quelle autre méthode, on s'entend là, que vous avez des trucs, là, mes petits coquins. Fait que ceci étant dit, Marc-André Barrio à Boisatar, comment voit-on ce match-up-là? Je vois ça d'un bon œil. Je vois ça d'un très bon œil parce que Abu Azaitar, principalement, il a la caractéristique assez jambon middleweight de moi, je veux swinguer des crochets, alterner entre la tête puis le corps. Puis c'est pas mal ça l'essentiel de ma game, là, comme on a vu dans son premier combat à l'UFC, qui est crème et un de ses premiers combats depuis très longtemps, là, Abu Azaitar, qui est un combattant avec une belle fiche. Il est 14-2 avec un combat nul, mais est un combattant très peu actif, vraiment très peu actif. S'est battu une fois seulement dans l'UFC. C'était en 2018 face à Vitor Miranda. Avant ça, c'était pas battu avant le mois de octobre 2016, où il avait gagné au World Series of Fighting une décision unanime contre Michael Arendt. Mais bref, tout ça pour dire que justement, seulement qu'un combat là, entre 2016 et 2021, puis c'est un combat contre Vitor Miranda qu'il avait gagné en 2018 par décision unanime. Comment ça s'était déroulé ce combat-là? Abu Azaitar s'était mis sur son bicycle. Elle était la personne qui reculait, puis quand se sentait prêt, burstait avec ses attaques. Souvent, c'est ça qu'il aime faire. Puis il est assez prévisible, là, je vous dirais. Ce gars, il recule circle à l'entour de la cage. Puis là, quand il est prêt à attaquer, il va planter ses pieds, puis il va leaper avec quelque chose. Leaper avec un overhand, leaper avec des crochets. Il aime beaucoup la combinaison deux crochets au corps, deux crochets à la tête. Là. C'est quelque chose qu'il lance assez souvent, je vous dirais, en général. Puis ben, ça fait de lui un fighter quand même assez prévisible. Ses caractéristiques, principalement, c'est qu'il frappe assez fort, il est gros, il est tough, il est capable de faire 15 minutes, bien que, tu sais, son style de combat, c'est beaucoup de circling, puis un burst une fois de temps en temps, ce qui fait qu'il n'y a pas un volume de strike très élevé. Oui, il lance en combinaison, il lance avec quand même du power, mais c'est pas quelqu'un qui va constamment être dans ta face en train de lancer du volume. C'est pas le style de combattant qui va nécessairement t'épuiser par son output non plus. Toujours super game de brawl, d'échange des combinaisons, puis crime. C'est un bon combat pour Marc-André Barriot là, quand tu regardes ça. Parce que Marc-André, ce qu'il va vouloir faire, c'est exactement le contraire de Abou Azatar. C'est aller de l'avant, c'est mettre la pression. C'est là que Barriot est bon. Quand il met la pression, puis là, il élicite une réponse de son adversaire, puis il répond à la réponse de son adversaire, dans le fond, avec ses attaques, avec du gros power. Barriot, même si c'est pas le plus gros middleweight, même si c'est pas le gars le plus imposant là, physiquement, quand tu le vois, c'est pas Yoel Romero, c'est pas un gars avec un physique super sculpté, puis tout, mais est excessivement physique comme combattant. Quand il va de l'avant, c'est très dur d'ignorer le momentum de Marc-André Barriot qui va de l'avant, puis qui laisse ses mains aller, puis qui lance des uppercuts, puis qui essaie de rentrer dans le clinch, justement, où il est absolument excellent, où il lande la majorité de ses gros punches, ses uppercuts du clinch sont absolument brutales. On se rappelle là le combat contre Andrew Sanchez, mais beaucoup de ses autres combats avant. Et puis, tu sais, je pense que Barriot est aussi le plus willing d'essayer un takedown. Son ground and pound est très redoutable, surtout quand il est capable de s'installer soit en half guard ou en montée complète. Des bons coups de coude. Il y a plein de choses qu'il fait bien. Puis écoutez, en général, mon read de ce combat-là, c'est que Marc-André Barriot se doit d'être le favori, là, parce que tu as un combattant qui va probablement le laisser venir de l'avant dès le début du combat. Puis c'est là qu'on a vu peut-être Barriot dans ses combats avant contre Oscar Piechota avoir un peu de difficulté. C'est qu'il laissait un peu son adversaire établir son rythme, puis là, vers le milieu du deuxième round, vers le troisième round, Barriot se mettait vraiment dans sa game, puis il y avait toujours un excellent troisième round qui gagnait de façon complètement décisive, mais des fois, il avait perdu les deux premiers, puis c'est ça qui faisait qu'il n'allait pas chercher ses victoires-là. Ce combat-là, Abou va le laisser aller de l'avant, va le laisser établir sa game assez rapidement. Il est tough, il est gros, puis il est tough, Abou Azatar, par exemple, donc je pense que ça va quand même être un bon combat back and forth. Je m'attends à ce que ce soit à l'avantage de Marc-André Barriot. Je ne m'attends pas nécessairement à avoir un finish dans ce combat-là, mais je suis pas mal confiant que Marc-André Barriot va être capable de gagner ça. Donc, ceci étant dit, mon pick officiel, c'est Abou Azatar par décision. Parce que lors du dernier combat de Marc-André Barriot, j'ai dit que j'essayais quelque chose, que je piquais contre lui, même si je viens de vous donner mon analyse, puis assez clairement, vous le savez que je pense qu'il va gagner. Mais à son dernier combat, j'étais là, ça fait là, les défaites, puis à toutes les fois, j'ai piqué pour lui, puis il perd. Fait que j'ai dit, ah, je vais essayer de juste pique contre lui, même si je pense qu'il va gagner. Puis j'avais pique Oscar Piechota, puis le Marc-André a gagné. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé là, avec cette victoire-là, mais on n'est pas ici pour parler de ça nécessairement. L'affaire que je veux dire, c'est que je fais la même crise d'affaires, parce que je veux que Marc-André gagne, puis si je pique contre lui, il a l'air de gagner. Donc je pique contre toi, Barriot, Esti, Abou Azatar, par décision, I guess, c'est mon pic, mais entre vous et moi, c'est Marc-André Barriot qui va gagner ce combat-là. Probablement par décision, parce que comme j'ai dit, l'autre est excessivement tough. Fait que ma prédiction, Marc-André Barriot par décision, ma prédiction officielle, Abou Azatar par décision. On passe au prelim maintenant, parce que Barriot, c'est le seul combat sur Fight Pass. On passe au prelim, ça commence à 8h. Shane Young, Omar Morales. Basically, ce qui arrive ici, c'est que Shane Young se revient d'une défaite par KO. Il s'était genre fait super blast là, par Ludovic Klein, qui est arrivé avec une combinaison de complètement ridicule qui avait fini avec un red kick. C'était très beau. Puis l'UFC dit « Tiens, Shane Young, tu viens d'avoir de la misère contre un excellent striker qui est capable d'être patient puis placer ses strikes, mais quand il est capable de les placer puis qu'il est confiant, il est capable de lancer des très belles combinaisons et finir ses adversaires. » Mais parfait, pogne donc Omar Morales, qui est exactement ça, puis que la seule défaite qu'il a dans toute sa carrière, c'est une défaite par décision assez serrée contre Giga Chikadze. J'ai donc Omar Morales ici, le parti KO. C'est comme un peu donner le même match-up que le match-up d'avant à Shane Young, un match-up qui a perdu par knockout, mais que tu lui donnes un combattant qui est encore plus établi dans l'UFC que Ludovic Klein. Donc, je pense pas que ça va bien aller pour Shane Young dans ce combat-là. J'ai Morales TKO, round 2. Ensuite, on a Modestus Bukauskas qui affronte Mikhail Oleksychuk dans un combat de nom absolument génial, man. Modestus Bukauskas puis Mikhail Oleksychuk, c'est deux des meilleurs noms qu'on a dans la division light heavyweight, et ça de loin. Pour ce qui en est du match-up, je sais pas, j'ai un peu de... Mais j'ai pas de difficulté. Je pense que Oleksychuk se doit d'être favori ici, même si on l'a vu ne pas être vraiment très bon dans ses derniers combats. Le problème, c'est qu'on a vu basically qu'Oleksychuk est excessivement dangereux debout, même s'il est undersized. Puis ça, on a vu ça depuis sa carrière, le début de sa carrière dans l'UFC. C'est quelqu'un qui est probablement plus middleweight sized, mais qui n'a pas envie de couper tout ce poids-là. Donc, il est juste à light heavyweight. Puis ça fait qu'il y a du bon power, il est rapide, je place très bien ses punches, joue très bien avec ses combinaisons. Ça fait que c'est un combattant assez redoutable debout. debout de par son volume, mais aussi de par sa puissance. L'affaire, c'est qu'on l'a vu dans ses derniers combats, juste se faire prendre là, par des combattants plus gros et plus physiques que lui. Puis il s'est fait amener à terre, puis il s'est fait soumettre, il s'est fait passer un Von Flou là, par OSP. Puis il s'est fait soumettre aussi dans son dernier combat. L'affaire, c'est je m'attends vraiment pas à ce que Modestus Bukauskas arrive ici, le takedown, puis le soumettre. Le gars a même pas encore essayé un takedown dans sa carrière UFC. Donc, basically, si je m'attends à un duel debout ici, on a un combattant qui est quand même assez solide debout en Modestus Bukauskas, mais qui est un vrai... light heavyweight, qui est quand même mobile sur ses pieds, qui a une game assez weird, mais qui n'est pas super rapide, qui n'est pas super athlétique en général. Puis tu vas voir Alex Sechuk qui va arriver là puis qui va être plus rapide que lui avec ses mains. Donc, je pense qu'il peut lander les meilleurs punches debout puis gagner ce combat-là par décision. Ensuite, Jared Gooden, Aboubakar Nurmagomedov, c'est un combat qui est un peu set-up pour reprendre l'erreur qu'Aboubakar a faite à son premier combat UFC où il s'est fait passer un triangle par David Zawada, je me trompe du temps entre lui et son frère. Il me semble que son frère, c'est Martin, le gros qui se bat dans KSW, qui n'a pas une belle fiche. Puis David, c'est le welterweight. Ouais, c'est ça. David Zawada. Et puis, ben, c'est ça, regarde. Il va sûrement take down Jared Gooden, va travailler au sol. Puis s'il ne se fait pas soumettre, va gagner ce combat-là par décision. Je ne m'attends pas à ce qu'il se fasse soumettre. J'ai pas beaucoup d'espoir à Jared Gooden. Donc, j'ai Aboubakar par décision. Ensuite, on termine les prelims avec Alonzo Menifield face à Fabio Charrant. Combat qui devait être Alonzo Menifield face à William Knight, qui avait été rebooké d'un autre événement, qui avait été postponed à cause de la COVID. Puis il y a encore un problème de COVID, justement, je pense, dans le cas de William Knight. Et puis, ça fait que le combat a juste été scrapped. Il a emmené Fabio Charrant, puis William Knight va se battre dans quelques semaines face à Dawn Jung. Puis je suis content que ce combat-là n'ait pas lieu parce que c'est pas un combat qui m'enchantait vraiment. Celui-là ne m'enchante pas vraiment non plus, mais je pense qu'on a plus de chances d'avoir un knockout rapide. Parce que dans le fond, Fabio Charrant, c'est un gars qui arrive champion LFA, il a une fiche de 7 victoires, une défaite. Sa seule défaite, c'était contre Alexa Camour. C'était fait passer un flying knee au Contender Series, qui a donné d'ailleurs le contrôle UFC à Alexa Camour. Le restant de ses combats, il les a gagnés soit par décision, soit par soumission. Là, tu te dis, ben, soumission, c'est un bon grappler, c'est quelqu'un qui n'est pas un gros 205 livres, mesure, je pense, 6 pieds 1. Super bricked up, super stocky. Puis tu te dis, hey, ce gars-là, quand il rentre sur un takedown, puis takedown, puis il pogne un front-head lock, il essaie de te choquer, ça doit être quelque chose. Puis finalement, tu te rends compte qu'il n'essaie jamais un takedown, jamais. Basically, là, sa game, c'est d'essayer de te counter-punch de façon puissante, puis d'essayer de te faire mal. Mais le gars, il n'a jamais un knockout dans toute sa vie. Il a clairement avantage à amener le combo au sol parce qu'à chaque fois qu'il se fait shooter takedown sur lui puis qu'il le défend bien, il réussit seulement à prendre le dos de son adversaire et à le choquer ou faire quelque chose comme ça. Mais c'est pas une game qui pousse, c'est pas une game qui essaye d'amener dans ses combats, essaye juste de rester debout puis counter-strike avec ses adversaires. Puis là, il va se retrouver contre un gars qui veut exactement faire ça. Puis quand il n'est pas capable de faire ça, souvent, il perd, mais c'est exactement la game que Fabio Charrant va lui laisser le temps de jouer. Donc, j'ai assurément Alonzo Menifield ici, puis ça va être par first round TKO parce que c'est pas mal ça la game de Menifield. Fini quelqu'un au premier round ou gaz out super badly et perd le combat. Ça se pourrait qu'il gaz out super badly puis qu'il perde une espèce de slow fight dégueulasse où il gagne le premier round, puis les deux autres rounds, c'est Fabio Charrant qui va de l'avant puis qui essaie de le counter-strike en là-dedans, une power over and left par minute. Et c'est ça que ça donne, mais bref, on va essayer de pas espérer ce scénario-là parce que ça sera pas fameux si c'est ça qui arrive. J'ai Menifield first round TKO. Ensuite, on passe au pay-per-view. On a Jamie Mullarkey face à Cam Wardy pour commencer cet événement-là. Puis, tu sais, c'est pas le genre de fight que tu vois d'habitude dans le début d'un pay-per-view, mais je pense que le match-up est assez bon puis va nous donner du fun. Jamie Mullarkey est tout sauf bon et athlétique. Basically, là, c'est pas vraiment un combat. C'est un des moins bons athlètes à 155 livres, là, ça, de loin. On s'entend que c'est une division où tu as certains des meilleurs athlètes. Jamie Mullarkey n'est pas là-dedans, mais Jamie Mullarkey est tough, puis il n'est pas vite, mais il va de l'avant, puis il essaye, puis il travaille fort, puis il est capable de travailler dans tous les aspects de la game. Puis c'est, d'après moi, il va juste être un peu outmatch par l'athlétisme de Cam Wardy, qui va être bien content là, de le laisser venir à lui, parce que Wardy, c'est un counter-striker, puis un assez bon counter-striker qui trouve très bien ses punches. Mullarkey est est excessivement tough, par exemple. Fait que je pense pas que je m'attends à un knockout là, de la part de Wordy. Peut-être qu'il pourrait le sonner puis après le prendre dans une soumission comme il a fait avec le Violent Bob Ross, Luis Peña. Mais je compterais pas trop là-dessus. Donc, je m'attends à un bon back and forth dans ce combat-là. Quelque chose d'assez divertissant pendant 15 minutes qui va probablement être à l'avantage de Cam Wordy par décision. Ensuite, Jillian Robertson, Miranda Maverick. C'est un combat que j'ai déjà couvert. Puis c'est malheureux, mais tu sais, Jillian Robertson nous a prouvé que si elle n'est pas capable d'amener son adversaire au sol, s'installer sur le top, elle n'est juste pas capable de gagner au niveau de l'UFC. Son striking n'est pas au niveau de sa takedown defense, son offensive wrestling, son offensive grappling du top. Excellent. Là. C'est une spécialiste, c'est une des meilleures combattantes sur le top dans sa division. Puis si elle réussit à takedown son adversaire et avoir du top control, peut la soumettre, là, elle peut facilement la soumettre, elle peut facilement faire plein de choses avec au sol, parce que comme je dis, c'est une spécialiste et une des meilleures top control fighters dans la division. Ceci étant dit, pas une super takedown defense. Si tu réussis à la takedown et à s'installer sur le top d'elle, tu vois qu'elle a un peu plus de difficultés, elle sait un peu moins quoi faire, ou elle est peut-être juste trop à l'aise d'être au sol puis elle se laisse être en dessous pendant 5 minutes puis perdre des rounds comme ça. Debout, son striking est vraiment pas au niveau. Puis c'est la partie de sa game qui semble le moins s'améliorer, malheureusement. Donc, ça va être très difficile pour elle, là, plus elle va monter les échelons de cette division-là. Puis Miranda Maverick, c'est une très bonne prospect qui est capable de tout faire. Puis je pense pas que ça serait une bonne défaite pour Miranda que de perdre contre Jillian Robertson, qui est tellement unidimensionnel dans sa game. J'ai donc Miranda Maverick ici par décision. Ensuite, Sean O'Malley, Tomas Almeida. Si on avait encore eu le vrai Tomas Almeida, ça aurait tellement été un bon combat, mais j'ai comme l'impression que c'est un combat où Tomas Almeida va arriver puis va essayer de juste être un random white-eyed Brazilian fighter et on va se faire allumer un moment donné parce que Sean O'Malley, c'est un sniper at range qui, malgré toutes les critiques de sa game, malgré les critiques sur basically sa manière d'être, sa manière d'avoir abordé là, sa dernière défaite contre Marlon Vera, où il s'est fait calf-kick, sa jambe a complètement lâché puis il a blâmé ça sur à peu près n'importe quoi, sauf le fait que son adversaire lui a infligé les blessures qui ont mené à sa défaite. Là. Mais bref, ceci étant dit, je pense que dans ce combat-là, Sean O'Malley va pouvoir over le hat range, être mobile, lander ses punches et de sniper Tomas Almeida. Puis, ça risque d'être le fun le temps que ça dure, mais je m'attends pas à ce que ça dure tout le long. J'ai Sean O'Malley par KO au deuxième round. Co-main event maintenant. Tyron Woodley face à Vicente Luque. Puis tabarnouche, man. Quand tu regardes Tyron Woodley qui n'a pas gagné un round depuis son combat contre Kamaru Usman, puis que tu le mets contre Vicente Luque qui va mettre de la pression, qui va lancer du volume en malade mental, je ne sais pas ce que j'ai besoin de vous dire ici. Là, je ne pense pas que Tyron Woodley, à moins qu'il réussisse à lander une counter over and right parfaite, puis qu'il knock out Vicente Luque, ou qu'il soit capable de timer des takedowns absolument incroyables, puis de l'amener au sol, puis de le dominer assez longtemps. Là, je vois pas ce qu'il va faire dans ce combat-là. J'ai même l'impression qu'avec l'agressivité de Luque, ça pourrait être là que Tyron Woodley se fait finir. T'sais, dans ses derniers combats, il s'est fait complètement dominer pendant 25 minutes. C'était même pas proche. J'ai l'impression que là, c'est le genre de combat où il pourrait se faire finir avant la fin. Pour cette raison, je vais avoir Vicente Luque par third round TKO. Et ça nous mène au main event de la soirée. Le rematch entre Stipe Miocic et Francis Ngannou pour le championnat heavyweight de l'UFC. Puis, tu sais, je feel tout le monde qui dit que ça a l'air d'être le temps de Francis Ngannou. Il y a comme un petit peu ce feeling-là dans l'air. L'affaire, c'est qu'il l'avait le premier coup aussi. Puis, on a tous vu comment ça s'est passé. Puis, tu sais, si je veux arriver ici puis vous faire une analyse du combat, il faut que je me fie sur les données qu'on a eues auparavant. Puis, c'est juste très difficile de regarder le premier combat puis de se dire que Francis Ngannou va gagner ça. La seule manière dont je peux voir, puis tu sais, je comprends là, que les odds soient autant serrés parce que c'est vraiment un two true outcome. C'est probablement Stipe Miocic qui réussit beaucoup de takedown et qui out-grapple Francis Ngannou pendant 25 minutes comme il a fait le premier coup. Ou il va se faire allumer bien raide. Puis Stipe n'a pas rajeuni maintenant comme 39 ans. Probablement le plus vieux champion dans l'UFC. Et puis, crime. plus tu vieillis, plus c'est dur là, d'affronter un powerhouse, probablement le combattant le plus athlétique, le plus explosif et le plus grand power puncher qu'on voit en MMA. Tellement un grand power puncher que le gars, oui, il a une bonne technique de striking, mais il n'a même pas besoin de l'utiliser. Il a juste besoin d'aller de l'avant puis de bull rush son adversaire puis de lui passer un KO en quelques secondes. Puis s'il est pour gagner contre Stipe, je pense que c'est ça qui va arriver. Les premiers échanges de ce combat-là vont être absolument cruciaux. Si Miocic les survit, j'étais assez confiant que va gagner ce combat-là. Si Miocic ne les survit pas, ben on, évidemment, va se faire knocker ben red, puis Francis Ngannou va devenir le champion heavyweight de l'UFC. Donc, écoutez, c'est, comme je vous dis, c'est un two true outcome. Je vous ai donné les deux manières que ça peut se passer. Pour ma part, j'aime me fier sur des évidences qu'on a déjà, là, des évidences statistiques, des évidences du premier combat. Donc, j'ai stippé Miocic par décision ici, mais tu sais, on s'entend, là. Il y a deux manières que ça peut se passer, puis on va le savoir dans les premiers instants du combat. Donc, c'est ce qui conclut mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC 260. Laissez-moi un like, laissez-moi aussi vos commentaires, me faire part de vos prédictions sur le main event, sur le combat de Marc-André Barriot. Vous attendez quoi, le Barriot qui va tenter de regagner sa première victoire dans l'UFC, vu qu'il l'a déjà eu sa première victoire dans l'UFC, mais c'est devenu un no contest. Donc, il va essayer d'avoir là, sa vraie première victoire officielle dans l'UFC face à Abou Azatar. Donc, faites-moi part de vos impressions sur ce combat-là, sur le main event. Abonnez-vous à MMA Talk partout sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Je vais essayer d'être beaucoup plus actif sur Twitter. Donc, allez checker ça. Puis sur YouTube, évidemment. Donc, on s'abonne. On est bien content. On est heureux. On check du UFC samedi soir ensemble pour le live stream que je vais faire dès 19h30 pour le combat de Marc-André Barriot. Et puis, ben, c'est ça. À samedi et à la prochaine.